Jean-François Zigel. La preuve par Z. Une émission de France Inter faite à la main et pour les oreilles. Bonjour. Alors figurez-vous que depuis quelques mois, je passe mon temps à apprendre par cœur des poèmes de grands écrivains français. Pour le plaisir déjà. Quelques stations de métro, un voyage en train, un peu d'attente à l'aéroport et hop, j'apprends, je révise, comme au temps de mes années de lycée où je ne jurais que par Nerval, Apollinaire, Baudelaire ou Mallarmé. Et puis aussi parce que depuis le mois de décembre dernier, je donne chaque mois Salgavo des concerts d'un genre un peu particulier, mêlant poésie et musique, notes et mots, un vrai petit salon de musique du 19e. Tenez, le mois dernier, c'était le tour de Victor Hugo. Oui, je sais bien, il a déclaré un jour « Défense de déposer de la musique au pied de mes vers ». Mais le pensait-il vraiment? Ou n'était-ce qu'un mouvement d'humeur suscité par un médiocre compositeur? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aucun musicien n'a tenu compte de cette interdiction, et c'est tant mieux.
Vous êtes bien belle, et je suis bien laid. À vous la splendeur de rayons béliers, à moi la poussière, à moi l'araignée. Vous êtes bien belle et je suis bien laid. Tu feras le jour, je ferai la nuit, je protégerai ta vitre qui tremble. Nous serons heureux, nous serons ensemble. Tu feras le jour, je ferai la nuit. Vous êtes bien belle et je suis bien laid. À vous la splendeur de rayons baignés, à moi la poussière, à moi l'araignée. Vous êtes bien belle et je suis bien laid.
Serge Gainsbourg faisait le crooner en mode « Vous êtes bien belle et je suis bien laid », accompagné d'une élégante orchestration à la Michel Legrand. C'était la chanson de Malia, un tendre dialogue entre Gainsbourg et son idéal féminin. Alors la chanson de Malia, c'est une chanson du début des années 60, mais maintenant j'aimerais bien vous faire entendre quelques mélodies, des mélodies écrites du vivant de Victor Hugo ou à la fin du 19e ou au début du 20e siècle. J'emploie le mot de mélodie parce que normalement dans le domaine de la musique populaire, on dit chanson, et dès qu'on passe du côté des musiques savantes ou de la musique classique si vous préférez, on emploie plutôt le terme de mélodie. Si l'on parle d'une œuvre pour voix et piano ou pour voix et orchestre signée Fauré, Duparc, Ravel, Debussy, Berlioz, on parle de mélodie. Mais en dehors de ce problème de catégorie, est-ce qu'il y a une vraie différence entre une chanson et une mélodie? Oui, en principe, tout de même, la chanson adopte plus régulièrement la coupe classique alternant le refrain et le couplet, tandis que la mélodie est peut-être plus variée du point de vue des formes qu'elle adopte. C'est aussi un petit peu plus sophistiqué d'écriture. Les harmonies sont parfois un petit peu plus travaillées. Quand elles sont écrites pour piano et voix, les formules d'accompagnement sont plus innovantes souvent ou plus étonnantes. Et puis, de toute façon, l'instrument roi pour accompagner la voix, du côté de la musique classique, c'est le piano. Du côté côté de la chanson, on pourrait dire que c'est plutôt la guitare. Je vous propose maintenant d'écouter une autre déclaration d'amour, mais signée Charles Gounod, une sérénade également accompagnée par l'orchestre, une autre déclaration d'amour qui va vous permettre de comparer en quelque sorte entre la chanson et la mélodie, et vous allez voir que ce n'est pas si simple finalement de tracer une ligne de démarcation extrêmement nette. En tout cas, le texte est assez romantique. Quand tu chantes, bercé le soir entre mes bras, entends-tu ma pensée qui te répond tout bas ?
Quand tu chantes, bercé le soir entre mes bras, entends-tu ma pensée qui te répond tout bas? Ton doux chant me rappelle les plus beaux de mes jours. Ah, chantez, chantez ma belle, chantez, chantez toujours. Chantez, chantez, ma belle, chantez toujours. Chantez, ma belle, chantez toujours. Quand tu dors, calme et pur dans l'ombre sous mes yeux, ton haleine murmure des mots harmonieux, ton beau corps se révèle sans voile et sans atout. Dormez, dormez toujours. Dormez, dormez, ma belle, dormez toujours. Dormez, ma belle, dormez, dormez.
C'était la sérénade de Charles Gounod et nous dégustions la jolie voix si expressive et suave d'Emedonia, un artiste aussi à l'aise dans la mélodie, la chanson, l'opérette ou l'opéra comique. Un baryton martin, c'est-à-dire presque un ténor. Vous savez, les barytons martins, c'est cette catégorie de baryton qui a de grandes possibilités dans l'aigu, mais un aigu assez léger. Il mériterait d'être ténor, il ne l'est pas, mais il le mériterait. Alors, après Gainsbourg et Emedonia, pourquoi ne pas rester dans les voix d'hommes avec la voix de basse extraordinaire d'André Hugues Santana dans une ballade moyenâgeuse de Camille Saint-Saëns intitulée « Le pas d'armes du roi Jean ». Par Saint-Gilles, viens-nous-en, mon agile alezan, viens, écoute, par la route, voir la joute du roi Jean. Le merveilleux bric-à-brac habituel du Moyen-Âge, chevaux, rois, pages, gentilshommes, tourelles et clochers, beffrois, cierges, moines, vierges et latins.
Par Saint-Gilles, viens-nous-en, mon agile alezan, viens écoute par la route, voir la joute du roi Jean. Un gros carme charretrier est pour arme l'encrier, qu'une fille sous la grille s'est gosie à prier. Hommes de par Dieu, gentils hommes de haut lieu, il faut faire bruit sur terre, et la guerre n'est qu'un jeu, et la guerre n'est qu'un jeu. Cette ville au long cri, qui profile son front gris, des toits frêles, sans tourelles, clochers grêles, c'est Paris. aux dames, au roi loup, voient les flammes des chanteaux, où la foule qui s'écoule, hurle et roule à long flot, sans attendre sa piquon, l'œil bien tendre, attaquons de nos selles les donzelles, roses belles au balcon. Force aïeule, porte en gueule sud azur, porte en gueule sud azur. On commence le beffroi, coup de lance, cri d'effroi, on s'égorge, on se forge, par Saint-Georges, par le roi, on se forge, on s'égorge, par Saint-Georges. Par Saint-Georges, par le roi, par Saint-Georges, par le roi. Dans l'orage, lisse courbée, un beau page est tombé. Il se pâme, il rend l'âme, il réclame. Ce saint homme suivant Rome qui m'assomme de latin et rédige en romain tout prodige de ma main, qu'à ma charge il est marche sur un large parchemin. Le vrai sire châtelain laisse écrire le vilain, ça m'indigne quand il signe et gratigne le vélin, ça m'indigne quand il signe et gratigne le vélin.
C'était le pas d'armes du roi Jean, une mélodie de Camille Saint-Saëns sur un texte de Victor Hugo, interprété par la basse André Hugues Santana. Et maintenant, nous passons de l'orchestre au piano et d'une voix d'homme à une voix de femme, pas n'importe quelle voix de femme, la voix la plus grave, la voix de contralto, il s'agit de la voix de Nathalie Stutzmann, qui va nous chanter la première mélodie répertoriée de Fauré, écrite en 1861 à l'âge de 16 ans. Alors il s'agit d'une déclaration d'amour quelque peu attristée, d'une fleur à un papillon. En effet, celle-ci regrette d'être enchaînée, immobile, alors que le papillon peut lui voler où bon lui semble. Mais ce qui est original dans l'écriture de Victor Hugo, c'est que celui-ci fait suivre chaque alexandrin de 3 pieds supplémentaires, ce qui donne donc en tout des vers de 15 pieds. La pauvre fleur disait au papillon céleste « Ne fuis pas, vois comme nos destins sont différents, je reste, tu t'en vas ». Ah, pour que notre amour coule des jours fidèles, ô mon roi, prends comme moi racine ou donne-moi des ailes comme toi.
Disait au papillon céleste, ne fuis pas. Vois comme nos destins sont différents, je reste, tu t'en vas. Pourtant nous nous aimons, nous vivons sans les hommes, et loin d'eux. Et nous nous ressemblons, et l'on dit que nous sommes fleurs tous deux. Sors cruel, je voudrais embaumer ton vol de mon haleine dans le ciel. Mais non, tu vas trop loin parmi tes fleurs sombres, vous fuyez. Et moi, je reste seul à voir tourner.
Accompagnée au piano par Catherine Collard, c'était la voix si singulière, si sensuelle de la contralto Nathalie Stutzmann dans la mélodie de jeunesse de Gabriel Fauré, Le papillon et la fleur. Et pour rester avec Gabriel Fauré et les voix de femmes, je voudrais vous proposer maintenant un duo féminin. Enfin, plus exactement, une soprano dédoublée, puisque la géniale soprano néerlandaise Ellie Hamling y fait les deux voix, grâce à la technique du re-recording. Puisqu'ici-bas, toute âme donne à quelqu'un sa musique, sa flamme ou son parfum, reçois mon bien céleste, ô ma beauté, mon cœur dont rien ne reste, l'amour ôté. Texte de Victor Hugo, musique de Gabriel Fauré. C'était donc accompagné au piano par l'excellent Dalton Baldwin, la voix dédoublée de la soprano Ellie Hamling incarnant à elle toute seule les deux parties du duo « Puisqu'ici bat toute âme » de Gabriel Fauré. Alors après la voix chantée, la voix parlée. Victor Hugo aurait déclaré un jour, nous le rappelions en début d'émission, « défense de déposer de la musique au pied de mes vers ». Je laisse donc résonner la voix habitée d'Antoine Balpétré dans l'un des poèmes les plus connus de Victor Hugo, « La conscience ».
Lorsqu'avec ses enfants vêtus de peau de bête, échevelés, livides au milieu des tempêtes, Caïn se fut enfui de devant Jéhovah. Comme le soir tombait, l'homme sombre arriva au bas d'une montagne en une grande plaine. Sa femme fatiguée et ses fils hors d'haleine lui dirent « Couchons-nous sur la terre et dormons ». Caïn, ne dormant pas, songeait au pied des monts. Ayant levé la tête, au fond des cieux funèbres, il vit un œil tout grand ouvert dans les ténèbres et qui le regardait dans l'ombre fixement. « Je suis trop près, » dit-il avec un tremblement. Il réveilla ses fils dormants, sa femme lasse, et se remit à fuir sinistre dans l'espace. Il marcha 30 jours, il marcha 30 nuits, il allait muet, pâle et frémissant au bruit, furtif, sans regarder derrière lui, sans trêve, sans repos, sans sommeil. Il atteignit la grève des mers dans le pays qui fut depuis Assur. « Arrêtons-nous, dit-il, car cet asile est sûr. Restons-y, nous avons du monde atteint les bornes. » Et comme il s'asseyait, il vit dans l'escieu morne, l'œil à la même place au fond de l'horizon. Alors il tressaillit, en proie au noir frisson. « Cachez-moi » cria-t-il, et le doigt sur la bouche. Tous ses fils regardaient trembler l'aïeul farouche. Caïn dit à Jabel, père de ceux qui vont sous des tentes de poils dans le désert profond, étend de ce côté la toile de la tente. Et l'on développa la muraille flottante. Et quand on l'eut fixé avec des poids de plomb, « Vous ne voyez plus rien, » dit Zilla, l'enfant blond, la fille de ses fils, douce comme l'aurore. Et Caïn répondit, « Je vois cet œil encore. » Jubal, père de ceux qui passent dans les bourgs, soufflant dans des clairons et frappant des tambours, cria, « Je saurais bien construire une barrière. » Il fit un mur de bronze et mit Caïn derrière. Et Caïn dit, « Cet œil me regarde toujours. » Et Enoch dit, « Il faut faire une enceinte de tours si terrible que rien ne puisse approcher d'elle. Bâtissons une ville avec sa citadelle. Bâtissons une ville et nous la fermerons. Alors, tu Balkain, père des forgerons, construisis une ville énorme et surhumaine. » Pendant qu'il travaillait, ses frères dans la plaine chassaient les fils des noces et les enfants de Seth. Et l'on crevait les yeux à quiconque passait. Et le soir, on lançait des flèches aux étoiles. Le granit remplaça la tente au mur de toile. On lia chaque bloc avec des nœuds de fer et la ville semblait une ville d'enfer. L'ombre des tours faisait la nuit dans les campagnes. Ils donnèrent au mur l'épaisseur des montagnes. Sur la porte, on grava « Défense à Dieu d'entrer ». Quand ils eurent fini de clore et de murer, on mit l'aïeul au centre en une tour de pierre. Et lui restait lugubre et hagard. « Oh, mon père, l'œil a-t-il disparu ?» dit en tremblant Zilla. Et Caïn répondit « Non, il est toujours là. » Alors il dit « Je veux habiter sous la terre, comme dans son sépulcre un homme solitaire. Rien ne me verra plus, je ne verrai plus rien. » On fit donc une fosse, et Caïn dit « C'est bien. » Puis, il descendit seul sous cette voûte sombre. Quand il se fut assis sur sa chaise, dans l'ombre, et qu'on eut sur son front fermé le souterrain, l'œil était dans la tombe.
Nous écoutions La Conscience, un extrait de La Légende des siècles, lu par le comédien Antoine Balpétré, de la Comédie française s'il vous plaît, un acteur qui aura marqué les années 1940 pour ses apparitions dans des films comme La Main du Diable de Maurice Tourneur, L'Assassin habite au 21 ou encore Le Corbeau d'Henri-Georges Clouzot. Alors, puisque nous en sommes à parler de la Comédie française et donc à évoquer le théâtre, je voudrais vous rappeler qu'au XIXe siècle, quand on allait voir une pièce de théâtre, on allait voir un spectacle qui comprenait de la musique. On allait presque autant au théâtre qu'au concert. En effet, avant chaque acte, à la fin de chaque acte, pendant les changements de décor et même pendant les actes, tout était prétexte à faire entendre des ritournelles, des préludes, des interludes, des ouvertures, des entr'actes, etc. Il y avait une fosse, il y avait des musiciens en fosse, et donc on allait à un spectacle de théâtre qui était en même temps un concert. Et alors, pour illustrer cette pratique qui me laisse rêveur, j'aimerais tellement maintenant qu'on réintroduise plus massivement la musique au théâtre, et bien pour illustrer cette pratique, je vous propose d'écouter un extrait de la musique de scène que le grand Léo Delibes a écrite pour la pièce de Victor Hugo, Le Roi s'amuse. C'est une très belle pièce, Le Roi s'amuse, c'est une pièce de 1832, un grand drame romantique en 5 actes. Et je vous rappelle que si aujourd'hui le nom de Léo Delibes ne vous dit peut-être plus grand-chose, n'oubliez pas qu'à l'époque il était considéré comme l'un des plus grands compositeurs français, que Tchaïkovski l'admirait tellement qu'il a dit qu'il le trouvait meilleur compositeur de ballet que lui-même, et que Stravinsky, dans ses mémoires, parle avec la plus grande admiration de ses trouvailles harmoniques. Enfin bref, nous écoutons maintenant de Léo Delibes le passe-pied tiré de la musique de scène écrite pour Le Roi s'amuse de Victor Hugo. Le Royal Philharmonic Orchestra est placé sous la direction de Carl Davis. De Léo Delibes, nous écoutions à l'instant un extrait de la musique de scène du Roi s'amuse de Victor Hugo, interprété par le Royal Philharmonic Orchestra sous la direction de Carl Davis. Et maintenant, nous allons passer de la pièce de théâtre à l'opéra, de la France à l'Italie, puisque le Roi s'amuse de Victor Hugo a servi à élaborer le livret du célèbre Rigoletto de Verdi. Triboulet, le bouffon de François Ier, va ainsi devenir 19 ans après Rigoletto dans l'opéra éponyme de Verdi, un opéra écrit d'ailleurs pour la petite histoire sans le consentement de Victor Hugo. Alors dans le chœur le plus célèbre de la partition, les courtisans racontent au duc en se moquant cruellement l'enlèvement de la ravissante Gilda, qui n'est autre que la propre fille de Rigoletto.
Oh!
L'orientalisme fait fureur en ce début du XIXe siècle et c'est ainsi qu'en 1829 sont publiés les Orientales de Victor Hugo. 41 poèmes baroques, guerriers, érotiques et visionnaires, peignant un Orient inquiétant et mystérieux, lyrique et flamboyant. Le plus connu de ces 41 poèmes est incontestablement les djinns, qui aura marqué l'histoire de la langue française avec 15 strophes qui vont en crescendo de 2 syllabes à 10 syllabes pour retomber à 2 syllabes. D'après le Coran, les djinns ont été créés de feu subtil, et cela bien avant les hommes qui, eux, l'ont été en limon et en argile. Les djinns ont un cœur, des yeux et des oreilles, mais leur force est bien supérieure à celle des hommes, ainsi que leur vitesse de déplacement, qui peut être quasiment instantanée. La nuit, j'écoute, tout fuit, tout passe, l'espace efface le bruit. Nous écoutions les djinns de Gabriel Fauré sur un poème de Victor Hugo, bien sûr, une composition pour chœur et orchestre interprétée par l'ensemble vocal Alix Bourbon et l'orchestre du Capitole de Toulouse sous la direction de Michel Plasson. Alors dans ce même recueil des Orientales de Victor Hugo se trouvent également les adieux de l'hôtesse arabe, qui deviendront en 1866 l'une des mélodies les plus célèbres de Georges Bizet. Exotisme de la seconde augmentée, savoureux frottements harmoniques, rythme lancinant d'un désert fantasmé.
Puisque rien ne t'arrête en cet pays, ni l'ombre du palmier, ni le jaune maïs, ni le repos, ni la
étranger, hélas, adieu.
écoutions l'étonnante Irma Colassi, une mezzo-soprano grecque morte quasi centenaire en 2012 et dont la voix si singulière me donne toujours des frissons. En 1901, Maurice Ravel a 25 ans lorsqu'il tente pour la deuxième fois d'obtenir le fameux prix de Rome. Ah, le prix de Rome. Il y a ceux qui l'ont raté plusieurs fois, ceux qui ne l'ont jamais eu et ceux qui ne l'ont jamais passé. Berlioz l'a raté 3 fois, a reçu un second prix en 1828 et a fini par décrocher le premier en 1830. Saint-Saëns ne l'a jamais eu après 2 tentatives infructueuses, Messiaen l'a raté 2 fois, en 1929 et en 1930. Ducas n'a eu qu'un second prix en 1888, et Fauré ne l'a jamais tenté, ni Poulenc, ni Boulez. Et puis il y a la célèbre affaire Ravel. Maurice tente 5 fois sa chance. En vain, il ne sera jamais grand prix. Mais comment fait-on un prix de Rome? Eh bien, le rituel est immuable. On commence par proposer un chœur au premier tour. C'est ce qu'on appelle le concours d'essai. En 1901, le texte imposé parle de nature, un extrait du spectacle rassurant de Victor Hugo. C'était Tout est lumière, un chœur de Maurice Ravel interprété par le chœur et orchestre de Paris-Sorbonne sous la direction de Jacques Grimbert. Retour à la chanson pour terminer cette émission consacrée à Victor Hugo. Une voix d'homme, une voix de femme, pas de jaloux. Tout d'abord Brassens, chanteur préféré de mon père, avec une espagnolade extraite des rayons et des ombres. Chez Victor Hugo, le poème s'intitule tout simplement « Guitare ». Chez Brassens, Gastibelza, l'homme à la carabine, mais comme toujours chez Brassens, la guitare est dans l'accompagnement.
Gastibelza, l'homme à la carabine, chantait ainsi. Quelqu'un a-t-il connu Doña Sabine, quelqu'un d'ici? Chanter dans ces villageois, la nuit gagne le mont Falou. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Quelqu'un de vous a-t-il connu Sabine, ma señora? Sa mère était la vieille Mograbine dans Tecara, qui chaque nuit criait dans la tourmagne comme un hibou. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Vraiment la reine eut près d'elle était laide quand vers le soir elle passait sur le pont de Tolède en corset noir. Un chapelet du temps de Charlemagne ornait son cou. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Le roi disait en la voyant si belle à son neveu, pour un baiser, pour un sourire d'elle, pour un cheveu, un fendant rouille je donnerai l'Espagne et le Pérou. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Je ne sais pas si j'aimais cette dame, mais je sais bien que pour avoir un regard de son âme, moi pauvre chien, j'aurais gaiement passé 10 ans au bagne sous les verrous. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Quand je voyais cet enfant, moi le pâtre de ce canton, je croyais voir la belle Cléopâtre qui, nous dit-on, menait César, empereur d'Allemagne, par le licou. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Danser, chanter, villageois, la nuit tombe. Sabine un jour a tout vendu, sa beauté de colombe, tout son amour pour l'anneau d'or du comte de Saldagne, pour un bijou. Le vent qui vient à travers la montagne m'a rendu fou.
C'était Gastibelza, une chanson de 1954, et la voix rocailleuse et savoureuse de Georges Brassens nous chantant du Victor Hugo. Alors après le chanteur préféré de mon père, voici maintenant la chanteuse préférée de ma mère, j'ai nommé la grande Colette Mani. Nous sommes de drôles aux larges épaules, de joyeux bandits, sachant rire et battre, mangeant comme 4, buvant comme 10.
Nous sommes de drôles aux larges épaules, de joyeux bandits, sachant rire et battre, mangeant comme 4, puffant comme 10, qu'en vidant des litres, nous cognons aux vitres de l'estaminet. Le bourgeois difforme, tremble en uniforme, sous son gros bonnet, nous vivons en somme. On est honnête homme, on n'est pas mouchard. On va le dimanche avec Lise ou Blanche, dîner chez Richard, nous vivons sans gîte, goulûment et vite, comme le moineau, haussant nos caprices, jusqu'aux cantatrices de chez Bobino. La vie est diverse, nous bravons l'averse qui mouille nos peaux. Toujours en ribote, ayant peu de bottes et point de chapeau, nous avons l'ivresse. L'amour la jeunesse, l'éclair dans les yeux, des points effroyables. Nous sommes des diables, nous sommes des dieux.
Colette Mani qui nous chantait Les Tuileries sur un texte de Victor Hugo extrait du recueil des chansons des rues et des bois. C'était La Preuve par Z, d'une émission de Jean-François Zigel, réalisée par Anne Weinfeld et préparée avec Dorian Serre. Chef opérateur du son, Rémi Sistiaga, ce qui veut tout simplement dire en basque, panier à sardines. À la semaine prochaine!